Bonjour et bienvenue au fichier balado Exploration de l'univers symphonique avec Jean-Jacques Van Vlasler, diffusé depuis le studio P3 du Centre national des arts du Canada, ici à Ottawa. Je m'appelle Marjolaine Fournier et j'occupe le poste de contrebasse solo assistante à l'orchestre du CNA. Et l'épisode d'aujourd'hui traitera du concerto numéro 1 en mi mineur de Chopin. Bonjour à tous et bienvenue au studio P3 du Centre national des arts du Canada. C'est Marjolaine Fournier ici qui vous parle. Je rencontre Jean-Jacques Van Vlasler et nous allons parler du premier concerto pour piano de Chopin, aujourd'hui dans le cadre de l'exploration de la symphonie. Jean-Jacques, le concerto pour piano numéro 1 de Chopin, qu'est-ce qu'il y en est?
Qu'est-ce qu'il y en a ? Eh bien, c'est un concerto qui a été composé très tôt dans son existence. Il a 19, 20 ans, il habite en Corse. C'est la dernière année, en fait, où il habite à Varsovie, une jeunesse heureuse. Père français, mère polonaise, mais une jeunesse heureuse. Très vite, on découvre le talent et très vite, ce jeune homme tombe amoureux d'une jeune dame qui s'appelle Constanza Gadelska. Et puis, il compose un tout petit peu ses concertos 1 et 2, hein, on parle de celui en mi mineur, mais il y a aussi un concerto en fa mineur, et ces deux concertos sont créés dans cette période où il est follement amoureux de la petite Constanze Gladetska. Ça va l'influencer pas mal. Bien sûr, c'est un concerto de jeunesse, et c'est un concerto de jeunesse surtout dans ce concerto de mi mineur dont on parle, il se donne entièrement, il laisse aller sa créativité, et c'est pourquoi c'est aussi un concerto qui est, pour ce genre de concerto, assez long, près de 45 minutes, 44 minutes, dépendant bien sûr de ce qu'on appellera plus tard le secret de Chopin, le rubato, c'est-à-dire le temps, donner du temps au temps avec la main droite pour approfondir un tout petit peu l'expression ou l'expressivité, si vous voulez, de ce qu'on veut montrer dans la ligne mélodique. Donc, c'est un concerto qui est un peu accordéon dans ce sens-là, dans la longueur temporelle, hein, parce qu'il y en a qui le font beaucoup plus vite aussi.
Il a 19-20 ans quand il compose ces concertos-là. C'est un jeune homme de 19-20 ans qui fait l'orchestration.
Oui. Oui.
Mais c'est un homme beaucoup plus vieux, dans un sens, qui compose la partie de piano.
Oui, c'est-à-dire que le piano est ce qui l'intéresse. L'orchestration autour, c'est simplement pour avoir du répondant, c'est avoir une sorte de miroir derrière. Ce n'est pas un véritable dialogue. C'est une sorte de répétition. L'orchestre va répéter, puis le piano va reprendre, et puis le piano va quasiment improviser. Parce que ce concerto semble être assez libre, mais très bien construit du point de vue forme, du point de vue du piano. Hein? Il faut le souligner.
Mais allons-y tout de suite. Faisons une visite de la forme du concerto lui-même.
Eh bien, il y a trois mouvements. Ben, ça, c'est classique. Un mouvement rapide, un mouvement lent et un mouvement très enlevé, final. Un premier mouvement qui s'appelle un allegro maestoso, donc avec maîtrise rapide, mais bien contenue. Hein. Et puis, là, il y a une forme sonate. Forme sonate très classique avec deux thèmes. Un premier thème également tout à fait traditionnel, un premier thème décidé, martial, qui ressemble un peu aux compositions de Weber, qui était un compositeur important au début du siècle. Et puis un deuxième thème qui est beaucoup plus expressif, hein, donc en contraste, c'est comme ça qu'il travaillait, hein, en contraste, beaucoup plus lyrique. Et puis avec une assez fausse condense. cadence pour le soliste et une conclusion où il ne recherche pas nécessairement les effets. Et c'est déjà du grand Chopin. Il ne recherche pas les effets. C'est très souvent, on conclut un premier mouvement en faisant impression, parce que Franz Liszt fera ça, Tchaïkovski fera ça, mais non, lui, il ne le fait pas. Il ne cherche pas les effets. Déjà, Chopin, dans ce concerto, va chercher l'expression personnelle.
À 20 ans déjà,
il est très, très doué, il le savait depuis le début. Il a déjà composé un certain nombre d'œuvres, de petites œuvres pour piano à ce moment-là. Et puis, il y a le deuxième mouvement, qui est une romance, le rythme est un larghetto. Et c'est le mouvement le plus intéressant. Et c'est un mouvement qui ouvre déjà sur ces petites formes qu'il va exploiter et qui s'appellent les nocturnes. Et c'est un mouvement très serein, très romantique, déjà, c'est marrant, c'est déjà mélancolique. C'est pas encore le cafard.
Le
cafard viendra plus tard.
Ouais.
Le spleen viendra plus tard. Mais en polonais, d'ailleurs, on appelle ça Zal.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Zetael, spleen, cafard, c'est ça. Il avait le Zal de toute façon dans son système génétique. Il faut pas se leurrer. C'était une de ses caractéristiques. Et puis il y a le troisième mouvement, qui est un rondo, très vivace, également sur deux thèmes et qui est assez capricieux, qui est brillant et avec un rythme pointé qu'on appelle un rythme cracovien, c'est-à-dire de Cracovie, qui est un 2-4, c'est-à-dire martial. Mais c'est très beau, c'est une finale très enflée.
Vous étiez en train de parler de... Bon, un jeune homme de 19-20 ans qui compose comme ça, c'est quelque chose, mais plus tard, Chopin va faire avancer l'écriture pour le piano. Même dans ses concertos, il se dirigeait dans cette direction-là.
Dans l'écriture pianistique, certainement, déjà. Il a les sons en tête. Il a cette ouverture sonore. Je vais faire un petit pas en arrière. Il a été influencé par d'autres pianistes. Il a son écriture très personnelle. Il est quand même influencé par un pianiste qui va composer dans les mêmes petites formes comme lui. Et ce pianiste c'est un pianiste irlandais. Alors, les pianistes irlandais, il n'y en a pas beaucoup. Et il s'appelle John Field. Et John Field a composé des nocturnes, des préludes, exactement les mêmes formes. Il est un peu plus âgé que Chopin. Mais c'est beaucoup moins intéressant comme musique, comme expression. Arrive Chopin, et puis lui, il va employer ces mêmes formes. Mais il va y avoir là, bien sûr, tout à fait autre chose. À la fois le côté terroir, territoire, cette Pologne qu'il doit quitter en 1830, sans jamais y retourner, il ne va plus retourner. Cette recherche du son nouveau qui va être le son romantique, mais un son qui va ouvrir d'une certaine façon, et plus d'une certaine façon, sur la musique impressionniste et sur Debussy, entre autres, et qui va, par Debussy, entrer dans le XXe siècle, Scriabine, Messiaen. Voilà, ça c'est une lignée très claire, selon moi, dont le lien manquant a toujours été, pour beaucoup de gens, le compositeur russe Scriabine, à mon avis. Donc voilà ce que Chopin a fait. Donc il ouvre un nouvel univers en créant les facteurs de piano qui sont autour de lui. Il y a les pianos Erhardt, il y a les pianos Pleyel. Alors lui, il a derrière lui la famille Pleyel. Et ils suivent son écriture, et puis ils améliorent leur piano au fur et à mesure. Et à ce moment-là, il va pousser la technologie, bien sûr, d'une certaine façon. Il y en a un autre qui fait ça, c'est Franz Liszt, bien sûr. À mon avis, il y a deux immenses créateurs, pianistes créateurs au 19e siècle, et c'est Chopin. Et c'est Franz Liszt. Et né à un an de distance, hein, Chopin 1810, Franz Liszt 1811. Vous savez, c'était une période, moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans les étoiles, mais en 1810, il y a aussi Chopin, il y a aussi Schumann. En 1813, il y a les deux grands hommes d'opéra. Il y a Wagner, il y a Verdi. En 1809, il y a Mendelssohn, un an avant. Alors, vous savez, quasiment tous les grands créateurs de la musique romantique allemande, essentiellement, Verdi étant autre chose, mais allemande et européenne.
Imaginez les soirs de première.
Ah, mais les soirs de première. Et vous savez que quand il est à Paris, qui vient écouter ? Berlioz vient écouter, Halévy vient écouter, Meyerbeer vient écouter, Rossini vient écouter, Aubert vient écouter, Cherubini vient écouter, Boieldieu vient écouter. Ils sont tous là, ce ne sont pas les seuls. Il y a les peintres qui sont là, il y a Delacroix, il y a Ingres, il y a Vernet, il y a les écrivains, Victor Hugo, Musset, Gautier, Stendhal, c'est Lamartine, tout ce petit monde ce n'est pas un cercle fermé, mais c'est un cercle créateur absolument extraordinaire.
C'est étourdissant de penser à ça. Hein?
Oui.
Alors, puis Chopin, j'essaie de penser aux raisons qu'il y aurait. Je veux dire, à 20 ans, on compose deux concertos. Bon, il n'y en a plus composé après ça. Il n'y a presque pas composé pour orchestre.
C'est-à-dire les grandes formes ne l'intéressent pas. Les grandes formes ne l'intéressent pas. C'est un homme des petites formes. Et ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. C'est un homme des petites formes, comme d'une certaine façon. Mais Schubert est également un homme. Schumann, surtout, est un homme des petites formes. Mais il y a aussi, là, chez Schubert et Schumann, des ouvertures vers des œuvres plus grandes.
Mais Chopin, maladif, timide, maladif. Puis aussi, ce que j'ai lu, c'est qu'il se plaignait tout le temps des pianos. Que la salle était trop grande, le piano ne projetait pas, puis il faisait des acrobaties, puis on n'entendait rien, il n'y avait pas de clarté.
C'est un vrai pianiste. La plupart des pianistes...
Un chialeux.
La plupart des pianistes n'aiment pas les pianos sur lesquels ils jouent. Ouais. C'est-à-dire, sauf ceux qui se promènent avec leur propre piano.
Oui, ça fait que y a plusieurs raisons pour lesquelles Chopin aura écrit deux concertos, puis c'est tout.
Et puis c'est tout. C'est-à-dire, les grandes formes ne l'intéressent pas. Les concertos, out. Pas de symphonie. Il aurait pu y composer des symphonies. Il n'a pas fait d'œuvre théâtrale. Il n'a pas fait d'œuvre religieuse. Pourtant, c'est un chrétien convaincu. C'est un catholique, pas pour rien polonais. Et il n'a jamais rien composé. Il a quelques œuvres de musique de chambre. Œuvres avec violoncelle, petites œuvres de musique de chambre. Son univers, c'est le piano. C'est là où il s'exprime et où il dit des choses nouvelles.
Puis il vit à Paris à un temps où il y a beaucoup de maisons parisiennes, les gens s'achètent un piano.
Vous savez, et pas seulement à Paris, l'Allemagne, l'Autriche, toute cette Europe centrale, c'est le piano est l'instrument bourgeois. Et une fois de plus, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. C'est-à-dire, de toute cette période bourgeoise, le piano est l'instrument. Le piano, aujourd'hui, n'est plus le premier instrument. C'est-à-dire qu'il y a d'autres instruments électroniques qui sont intervenus. Moi, je dis très souvent que la guitare, la percussion est intervenue au XXe siècle comme instrument. Les cuivres sont extrêmement importants au XXe siècle et au XXIe siècle. le piano est devenu un autre instrument. C'est devenu un instrument complexe et qu'on intériorise à l'intérieur d'un ensemble au XXe et XXIe siècle.
Mais là,
c'était le centre. Et pourquoi ? Parce qu'il pouvait faire, il pouvait reprendre. Il n'avait pas de disque, il n'avait pas de radio. Il pouvait, alors, il pouvait jouer les symphonies de Beethoven au piano chez eux, à la maison. C'était un lieu de rencontre, le piano. C'était un lieu de rencontre. On faisait quatre mains, on faisait deux pianos, tout ça.
Oh, puis il y a tellement. Puis je suis en train de découvrir des œuvres qui ont été transcrites pour le piano quatre mains ou pour deux pianos.
Bien sûr.
Mais c'est fantastique, les symphonies. On entend tout. Mm-hmm. Mais parlons de l'instrument lui-même. Chopin, l'instrument qu'il a devant lui, est-ce qu'il est très, très différent de celui qu'on a maintenant? Est-ce qu'il est très différent de l'instrument que Beethoven avait?
Oui, il est certainement différent. Hein. C'est un instrument qui est en pleine évolution à ce moment-là. Quand vous voyez comment l'histoire et la technologie s'ouvrent à une vitesse de plus en plus grande, vous savez, le clavecin était pincé. Alors on passe au piano par le pianoforte. Le pianoforte. Alors c'était déjà un instrument frappé, mais l'infrastructure était en bois. Mais on passe là, à l'époque de Chopin, à une infrastructure, à une construction avec des éléments métalliques. Et la technique de frappe est beaucoup améliorée aussi. Donc il y a une sonorité tout à fait nouvelle qui se dégage de ces pianos. Alors, des hommes comme Chopin et comme Liszt vont profiter de cela pour dire ce qu'ils veulent dire au piano et en même temps ils ouvrent et ils poussent les créateurs ou les facteurs de piano à continuer à améliorer. Le piano va prendre une dynamique beaucoup plus grande aussi. C'est le beau son romantique qui va naître, qui va donner la possibilité à des hommes comme Brahms, Tchaïkovski et plus tard Rachmaninov à se laisser aller dans ces sonorités amples que nous avons, avec des graves améliorés et avec des pointes claires dans les hautes. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une évolution dans la relation, dans le concerto, puisqu'on parle du concerto. Alors, chez Haydn, bon, mon Dieu, même avant Haydn, le concerto grosso, ben les instruments entrent et sortent. Les instruments entrent et sortent de temps en temps, prennent une place et puis redisparaissent dans l'ensemble, hein, dans les concertos grosso. Chez Haydn, bon, il écrit un ou deux concertos pour piano. On ne les joue pas souvent parce que ce n'est pas très intéressant. Il y a une relation entre l'orchestre et cet instrument, mais ça ne dit pas encore grand-chose. Arrive Mozart, bien sûr, qui, avec ses 27 concertos pour piano, va écrire un journal intime de sa relation avec la société. Et où le pianiste, soliste, est l'individu, et l'orchestre est la société. Et ce dialogue se développe et dit ce que Mozart ressent. On n'est pas en train de parler de Mozart pour l'instant, mais grosso modo, c'est ça. Et puis arrive Beethoven qui ne compose plus que cinq concertos. Et il ne compose plus que cinq concertos parce que lui-même est un compositeur de transition dans lequel lui-même est en train d'évoluer fortement et vers la fin de sa vie, il va dire réellement ce qui est Beethoven et quelle est sa continue découverte créative à l'intérieur des quatuors à cordes et des dernières sonates. Ce sont des sonates immenses, extraordinaires. Ce sont de nouvelles perspectives qu'on découvre et qui ouvrent sur la musique du XXe siècle. Et puis après ça, Schumann n'écrit qu'un concerto pour piano et puis d'autres bricoles, mais un concerto pour piano surtout. d'autres bricoles, je veux dire, c'est Schumann est pour moi un des tout grands compositeurs, mais je voulais dire des bricoles pour orchestre et piano. Voilà, il vaut mieux préciser parce que. Et alors, un concerto, Grieg, un concerto. Est-ce que Schubert écrit des concertos pour piano? Non. Schumann fut à peine deux concertos et tout à fait de jeunesse. Et Chopin, deux de jeunesse. Et il faut attendre Brahms qui en fait. Des concertos, mais qui en fait sont des symphonies cachées. Et puis après ça, mon Dieu, il y a ce que j'appelle les romantiques attardés, dont on parlera un jour, comme Rachmaninoff.
Je suis un petit peu essoufflée juste à vous écouter. Ça me fait penser à beaucoup de choses, mais vous avez fait allusion au lien entre Chopin, Debussy, Messiaen. Racontez-moi ça un peu. Est-ce que les préludes, par exemple, de Chopin et ceux de... Est-ce que Debussy a composé ses préludes pour piano en pensant à ceux de Chopin?
Il connaissait sûrement les préludes de Chopin et il a sûrement fait un lien entre les préludes de Chopin. Mais les préludes de Chopin sont un ensemble poétique comme le est également celui de... Mais beaucoup plus que les préludes, ce sont les études de Chopin, et qui ont vraiment, c'est très clair, influencé l'harmonie les choix harmoniques de Debussy, qui a continué sur la lancée. Alors, je voudrais dire que je porte dans mon cœur les préludes, mais et dans mon esprit les études de Chopin. Et les études de Chopin, c'est symptomatique quand même. Il a fait deux ensembles d'études, deux ensembles d'études, et 27 au total. Il a dédicacé la première série à Franz Liszt et la deuxième série à la compagne de Franz Liszt, la mère de ses trois enfants, Marie Dagout, dont la fille, Cosima, a épousé un pianiste qui était chef d'orchestre aussi, et qui s'appelait
Hans von Bülow.
Oui, ça, il y avait un moment où ma mémoire me laissait en arrière. Hans von Bülow, qui a donné la première du concerto de Tchaïkovski, dont on a parlé, le concerto de Tchaïkovski à Boston, avant que d'autres pianistes qui avaient refusé Anton Rubinstein et qui se mordaient les doigts, pas trop parce qu'ils devaient continuer à pouvoir jouer du piano, mais qui se mordaient les doigts de ne pas l'avoir fait et qui ont repris le concerto plus tard de Tchaïkovski.
Mais là, vous avez bouclé la boucle, Jean-Jacques. Vous nous avez ramené complètement à Tchaïkovski, mais c'est le lien, c'est que c'était une... Ces musiciens, c'est tricoté serré, hein. Tout le monde se connaît.
Ils se connaissaient. Vous savez qu'à la première, je trouve ça toujours extraordinaire, à la première du Ring à Bayreuth, mais ils se retrouvaient tous là. Tchaïkovski, d'autres musiciens, ils étaient tous là à venir écouter, ce qui était quand même une très grande première, un chef-d'œuvre du 19e siècle. Et ils savaient, ils avaient là cette intuition, ils avaient le nez, et ça se disait l'un l'autre.
Il faut que tu viennes,
il faut que tu fasses le voyage à Bayreuth, parce que cette espèce de bonhomme, hein, à Béret, hein, Marie de Cosima, Liszt, a encore concocté une œuvre en quatre journées. Non, c'est passionnant, c'est passionnant. Ils se connaissaient tous.
Ben, encore une fois, Jean-Jacques, vous m'avez fait voyager dans le monde et puis dans le temps. Merci mille fois.
Je vous en prie.
À la prochaine.
À la prochaine.
Voilà qui termine cette émission d'exploration de l'univers symphonique. Faites-nous parvenir vos commentaires et vos questions par courriel à baladocna@gmail.com. Rappelez-vous que vous pouvez obtenir ce balado ainsi que les autres fichiers balado du CNA au baladocna.ca. Vous trouverez à cette adresse nos émissions passées ainsi que des liens et des directives qui vous permettront de vous abonner. Ne manquez pas d'écouter notre série sœur, NACOcast, avec Christopher Millard, qui est notre premier basson ici à l'orchestre. Vous pouvez également accéder gratuitement à ce fichier balado sous la rubrique iTunes Music Store. Cliquez « Exploration de l'univers symphonique » dans le champ de recherche. Ici Marjolaine Fournier au Centre national des arts du Canada. Au nom de Jean-Jacques Van Blasler et de l'équipe des nouveaux médias du CNA, je vous dis au revoir et à bientôt.